Bon matin. En chantant les cantiques ce matin, il y a une pensée qui m'est venue juste au hasard dans ma tête, mais je ne pense pas que c'est au hasard. Si on veut bénir le Seigneur et puis des fois le Seigneur nous donne des pensées. Oui, allume le micro. Merci, Jonathan. Une chance, t'es là. Bon, ça fonctionne? Bon. Donc, cette pensée m'est venue dans mon idée tout en chantant les cantiques. Tu sais, dans les dernières années, on parle souvent du 1 %, puis du 99 %, puis le 1 % étant les vraiment choyés, la société, les riches, et puis nous, les 99 % des autres. Mais ce matin, le Seigneur m'a rappelé, on fait partie du 1 %. Ici au Québec, il n'y a même pas 1 % de ceux qui se disent évangéliques, qui connaissent Christ par la foi, qui ont une relation et qui sont scellés du Saint-Esprit pour la vie éternelle. Moins d'un pour cent. On dit 0,6 là. Est-ce que vous êtes content d'être parmi le 1 %? On est tellement choyé, on a gagné la loterie, là. Et puis, tout en louant le Seigneur, on sait qu'on n'a rien fait, nous, pour appartenir à 1 % de ceux qui connaissent le Seigneur comme leur sauveur personnel. Et donc, nous, on a une mission de voir grandir ce 1 % ici au Québec, de partager l'Évangile, et puis ça se fait comme dans les ministères comme celui du camp Jolibé. Où ce que des enfants arrivent au camp où 95 % des enfants n'ont jamais connu, peut-être même le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui connaissent rien de lui, et puis qui sont sous la voie de l'Évangile pour toute une semaine. Et combien d'entre eux partent du camp avec des beaux souvenirs et une belle semence, et d'entre eux, il y en a même qui ont placer leur foi en Jésus-Christ, puis on prie que le Seigneur leur garde et puis qu'ils puissent grandir dans leur foi. Et puis, c'est vraiment beau que le Seigneur nous donne à l'occasion de ceux qui ont été impliqués au camp de rencontrer des gens qui sont maintenant adultes. Il y en a même de ceux-là qui sont maintenant grands-parents qui nous disent: Hey, j'ai fréquenté le camp Jolibé quand j'étais petit, puis ils en portent encore des beaux souvenirs. Et cette semence-là n'est jamais perdue. Il y en a même qui se rappellent de certains chants. On était au Rodeo à Malartic, là, je pense que c'était le Rodeo Western, avec l'Association des fermiers chrétiens. Et puis une jeune femme est arrêtée avec sa fille. Et puis elle nous a chanté un petit cantique qu'elle avait appris au camp Jolibé. Elle avait des beaux souvenirs. Donc on fait partie du 1 %, puis le Seigneur tarde pour venir nous chercher. S'il tarde, c'est parce qu'il veut qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent et le travail de l'Évangile n'est pas encore terminé. Alors, ce matin, on continue dans cette série de quelle est ton approche ou mon approche ou notre approche à certains grands thèmes. Et puis, ce matin, on va toucher, puis je vous avais déjà montré par courriel un peu le sujet de cette semaine. Quelle est ton approche à la volonté de Dieu? Et puis, comme j'ai pu expliquer dans mon courriel, c'est que ça pourrait apporter à confusion parce que vous allez sûrement dire, mais tu as déjà prêché sur quelle est notre approche au péché. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter de nouveau si tu veux parler de la volonté de Dieu? Bien, c'est le contraire du péché. Mais c'est un peu plus que ça. Je pense qu'il y a une distinction à faire. C'est sûr que les deux sujets, celui du péché et celui de la volonté de Dieu, bien, ils sont liés, mais ils abordent la vie chrétienne sous deux angles différents. Notre approche au péché répondait justement à la question: que fais-je lorsque Dieu me montre ce qui est mauvais? Mais l'approche à la volonté de Dieu répond à la question: que fais-je lorsque Dieu me montre ce qui est bon? On peut mettre tous nos efforts pour éviter le péché, fuir le péché, puis peut-être même prendre une certaine fierté que avec l'aide de Dieu, on a pu ne pas pécher. Puis là, on se pense sur la bonne voie. On pense que Dieu a un beau sourire. Puis je dis que oui, Seigneur, il est content quand ses enfants puissent fuir le péché, éviter la tentation, gagner le combat de la vie spirituelle. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on marche justement dans la volonté de Dieu, dans les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Dieu a un plan parfait pour chaque enfant de Dieu. Et nous, on peut choisir un plan qui est la nôtre, qui n'est pas nécessairement méchant ou mauvais, mais que Dieu nous a réservé quelque chose, il nous a équipés avec des dons pour faire autre chose, et on résiste et on fait notre propre chemin, peut-être en faisant beaucoup de bien, pas nécessairement en étant un grand pécheur, mais est-ce que notre approche à la volonté de Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose que notre approche envers le péché? Essentiellement, on peut résumer que le péché, ça regarde principalement à ce que Dieu nous demande de quitter. Mais la volonté de Dieu regarde principalement à ce que Dieu m'appelle à poursuivre. Cette question de notre approche à la volonté de Dieu vraiment va révéler notre cœur. À quel point nous sommes engagés pour faire qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Beaucoup de personnes veulent connaître la volonté de Dieu pour prendre des décisions. Puis quand on a regardé le sujet, quelle est mon approche à la prière, on a regardé un peu la même pensée. On est toujours prêt à prier ou à considérer la volonté de Dieu dans des grandes décisions de la vie, comme celui où habiter, quel emploi choisir, qui épouser, quel ministère à exercer. Il semble qu'on est toujours prêt à lui remettre ces choses dans sa volonté, parce qu'on dit, bien, si on fait le bon choix, celui que Dieu réserve, bien, ça a une meilleure chance de bien aller. Mais Dieu s'intéresse à une autre chose, une question autre que celui-là. Dieu demande la question suivante, « Es-tu prêt à faire ma volonté, quelle que soit? » C'est la question que Dieu nous pose ce matin, que Dieu me posait aussi à mon cœur. « Es-tu prêt à faire ma volonté, quelle qu'elle soit? » Tu vois, il n'y a pas de question de péché ici. Ce n'est pas éviter le péché, de répondre à la question « Es-tu prêt à faire ma volonté? » Puis c'est sûr que dans notre contexte, souvent, on veut avoir plein d'informations avant de marcher avec un pas de foi. C'est comme on voudrait que Dieu dessine pour nous et nous montre le plan de A à Z pour qu'on puisse dire « Ah, OK! » Là, je le sais, oui, je suis prêt à marcher dans ta voie. C'est comme on veut, comme on dit en anglais, « get my ducks in a row ». On veut tout soit aligné. Oui, on avance. Mais le problème, ce n'est pas un manque d'information, c'est plutôt un manque de disposition. Est-ce que nous sommes prêts? Quel que soit qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, de marcher dans sa volonté. J'ai plein d'élèves Emmaüs qui me posent souvent la question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et la question devrait être, Seigneur, prépare mon cœur pour faire la volonté que tu vas me montrer. Dieu cherche justement un cœur qui veut l'obéir. Soyons honnêtes, hein? Surtout dans le contexte de la vie qu'on vit actuellement, dans le contexte de la culture dans laquelle nous vivons ici au Canada, ici au Québec. Notre génération demande souvent la question, « Seigneur, montre-moi ton plan. » Puis là, il y a toutes les grandes étapes, mes études, ma carrière, mon mariage, ma maison, mon ministère, etc. Mais Dieu répond, donne-moi ton cœur, puis le reste, je te le montre. Il faut que tu donnes ton cœur avant. Voici des exemples de la Bible où ce principe nous devient très clair. Abraham. Hein? Quand Dieu lui a appelé, la première chose qu'il a dit, pars de ton pays, quitte ton pays. Sans lui déclarer de A à Z, il dit simplement, ramasse tes bagages, sors de ton pays, tu vas rentrer dans un pays que je te montrerai. Moi, j'aurais été Abraham, j'aurais dit, mais quel pays tu veux m'envoyer? C'est-tu beau? C'est-tu chaud? Les hivers sont-tu longs? Y a-tu bien des mouches noires et des marins loin dans ce pays où ce que tu veux m'envoyer? Moïse, lui, avant de le conduire, la première chose que Dieu demande à Moïse, il dit, enlève tes sandales. Parce que tu parles à ton Dieu et ton Dieu te parle. Et on a vu dans l'histoire de Moïse, c'était une révélation progressive que Dieu lui donnait sur une échéance de 80 ans. Ça n'a pas été dans la première année où il a tout su. On pourrait dire qu'il était plus dans le noir qu'il était dans le savoir. Puis la première chose qu'a fait Dieu, c'est de s'incliner devant un Dieu sur une terre sainte, dans la présence de Dieu. Avant d'envoyer le prophète Isaïe, Dieu purifia ses lèvres, il envoya un ange avec un charbon ardent pour le purifier. Avant d'envoyer les disciples, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Jésus leur demanda de tout laisser. Et puis, ils ont tout laissé. Donc, il ne faut pas, dans cette pensée de que faire par rapport à la volonté de Dieu, dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comme si on voudrait évaluer le projet avant de répondre. Dieu veut la réponse. Il veut un oui avant de nous montrer le projet qu'il nous réserve. Donc, en résumé, la volonté de Dieu commence par une consécration, une mise à part, une réponse qu'on répond oui sans savoir à quoi qu'on répond oui. Romains 12, au verset 1, un verset qui est très bien connu. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ici, Paul, inspiré du Saint-Esprit, ne commence pas par chercher la volonté de Dieu. Sachez quelle est la volonté de Dieu. Non. Il commence avec « donnez-vous à Dieu ». C'est ça la différence. Deuxièmement, la volonté de Dieu exige un renouvellement de notre intelligence. Le verset 2 qui suit le premier qu'on vient juste de lire. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, premièrement, on donne un oui sans savoir quel est le projet. Et ensuite, on s'installe pour avoir de voir que notre intelligence soit renouvelée parce que renouveler notre intelligence, c'est de ne pas nous conformer au siècle présent, à la philosophie dans laquelle et la culture dans laquelle qu'on vit. De savoir parfois que Dieu va nous demander de marcher contre-courant. Et finalement, ça va nous coûter quelque chose. Les seules choses qu'on devrait compter, on le chante dans nos petits cantiques, compte les bienfaits de Dieu, mais compte pas le coût que le Seigneur nous demandera à payer pour marcher dans sa volonté. En préparant ce message, comme qui arrive souvent à n'importe quelle personne qui est responsable pour enseigner la parole, des fois, on se demande, Seigneur, combien de ce message vient de moi, puis combien de ce message vient de toi? T'sais, parce qu'on peut être assez intelligent pour faire une thèse, puis défendre une thèse, aller chercher des versets appropriés pour défendre peut-être même une conviction personnelle. Seigneur, est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Est-ce que mes frères et sœurs se tannent de voir encore un autre message sur quelle est ton approche? Tu pourrais-tu changer de gear peut-être, mon frère? Il semble qu'on est rendu au 7e message sur le même thème. Ça commence à être long. Hein? C'est fou comment qu'on peut penser. Hein? Je ne suis pas ici pour essayer de vous ennuyer. Mais le Seigneur m'a donné deux occasions cette semaine pour me donner un petit clin d'œil pour dire, écoute, t'es sur la bonne voie. On a besoin d'entendre ce message-là, puis j'avais besoin de l'entendre moi aussi. Surtout dans ma jeunesse, si je l'aurais bien entendu, ce message-là. C'est dans ma cinquantaine où est-ce que finalement j'ai cédé ma volonté pour la volonté du Seigneur pour marcher dans sa voie du ministère qu'il m'avait réservé. Peut-être même avant, il aurait voulu que je marche dans ce même ministère avant. Mais le Seigneur m'a fait comprendre. Et puis, on a pris un pas de foi. Puis, on a répondu oui sans savoir les détails. On s'est ramassé à Timmins dans une belle maison sur le bord du lac. On venait juste de s'installer. Puis là, c'est comme le Seigneur nous appelait à autre chose. Il y avait plein de choses qui auraient voulu qu'on reste là, planté là où qu'on était, sur le bord de l'eau. On était bien. On était à la retraite. The good life. Et je ne dis pas que je n'ai pas le good life. J'ai encore une vie meilleure de servir le Seigneur. Mais, tu sais, la façon des fois on pense, le Seigneur m'a envoyé deux choses à lire cette semaine. Peut-être si vous avez des courriels qui viennent de publications chrétiennes de Trois-Rivières, il y a un nouveau petit livret qui est sorti de Kevin DeYoung qui s'appelle « Ne suis pas ton cœur ». Et puis, la description m'intéressait, puis le fait que c'était disponible sur Kindle pour moins de 5 $, je l'ai acheté. Je l'ai lu, puis j'ai dit, « Ouais, Seigneur, c'est en plein, qu'est-ce qu'on est en train de prêcher à matin? » Tu m'as confirmé le sujet, tu m'as confirmé les propos. Même si ce petit livre est vraiment écrit pour nos ados, nos jeunesses qui contemplent des grandes décisions là, au début de leur vie adulte, c'est un sermon que Kevin DeYoung avait apporté à un lycée d'étudiants qui graduaient. Et puis, ils ont fait un petit livre avec pour amener les propos. Mais ça a ses applications dans les vies d'adultes aussi. Puis ensuite, plus tard dans la semaine, la revue Cornerstone, il y a un frère qui nous a partagé un très beau article sur « The course of this world », « Le cours de ce monde ». La façon que ce monde ici, cette culture dans laquelle on vit, cette philosophie de l'ego est tellement présent dans notre société qu'on serait peut-être un peu, je ne trouve pas le mot, pas ignorant, mais de penser autrement que ça ne nous affecte pas, là, on se tromperait. Ça vient nous toucher. On est pris par ces mêmes concepts. Et puis cet article-là aussi m'a beaucoup béni. Puis j'ai vu dans cet article-là aussi les propos de notre enseignement ce matin. Kevin DeYoung dit ici, dans la préface de son petit livret, « Le monde nous enseigne que notre identité se trouve dans ce que nous désirons et que par conséquent, refuser de satisfaire ses désirs équivaut à renier sa véritable identité. » Il continue, « Ne suivez pas vos rêves, il dit. N'écoutez pas votre être intérieur. Et quoi que vous fassiez, ne soyez surtout pas authentiquement vous-même. » Parce que si on est authentiquement nous-mêmes, touchés par le péché, touchés par la culture qui est autour de nous, on va faire de graves erreurs. Ne suis pas ton cœur. Suis le cœur de Dieu. Cède ta volonté pour sa volonté. C'est qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Pour illustration, un navigateur, lui, sur son bateau, surtout dans une tempête, il ne suit pas ses émotions. Hein? Premièrement, il a peut-être un peu peur. Quand j'ai peur, c'est rare que je réfléchisse bien logiquement. Hein, la peur nous prend, puis c'est comme on ne peut plus penser correct. Le navigateur va suivre sa boussole, son instrument qui va lui donner le bon chemin. Mais pour le chrétien, c'est la même affaire. On ne devrait pas suivre nos impressions. On doit savoir que notre cœur veut nous tromper. Notre culture veut nous tromper. Satan veut nous tromper. Et puis finalement, on est dans un monde qui veut nous tromper. Nos impressions, c'est de faire ce qui me plaît. D'aller selon ses émotions, qu'est-ce qu'on ressent? Ou de qu'est-ce que les autres nous disent? Ou qu'est-ce qui semble facile à faire? Ou souvent, selon nos circonstances. Dieu nous dit, suis ma parole. Donc, ça s'enchaîne avec l'idée qu'on a vue dans la première semaine. Quelle est ton approche à la Bible? Est-ce que tu prends le temps de la lire et de l'étudier et de la méditer? Hein, on avait mis un accent sur l'importance de méditer la parole de Dieu. Parce que souvent, en méditant la parole de Dieu, c'est là où ce que les réponses des fois, et c'est la façon que Dieu utilise souvent pour nous montrer sa volonté pour nos vies. Il va le confirmer par d'autres façons. Il va ouvrir des portes, il va fermer des portes, il va faire des choses pour qu'on puisse comprendre exactement comment avancer dans sa volonté. Mais ça commence souvent parce que Dieu jamais va nous demander de faire quelque chose qui va aller contre sa parole. Il ne nous trompera pas, lui. Dieu a révélé déjà une grande partie de sa volonté dans sa parole. Tu sais, on n'a pas besoin de se gratter la tête et dire « c'est quoi ta volonté? » On le lit dans sa parole. La parole nous dit, premièrement, que Dieu veut pour nous notre salut. Dieu veut que nos cœurs périssent. Qu'on ait tous la vie éternelle en Jésus-Christ par la foi, si on le confesse de nos lèvres. Mais Dieu aussi, une fois sauvé, veut notre sanctification. Il veut qu'il y ait une amélioration dans notre vie. 1 Thessaloniciens 4:3 nous enseigne ça. Dieu veut aussi notre reconnaissance. Il veut des adorateurs. Il veut de ceux qui apprécient ce qu'ils ont reçu. De recevoir un aussi beau cadeau, puis jamais dire merci, on se demande, écoute, le cœur est tortueux, mais il ne peut pas être à ce point-là être tortueux si on est réellement sauvé. Non. Si on est réellement sauvé, puis l'Esprit vit en nous, l'Esprit va jaillir en nous pour nous apporter à louer le Seigneur comme on a fait ce matin, ensemble. Est-ce que vous louez le Seigneur pendant la semaine ou juste le dimanche matin, accompagné de notre équipe de louanges? Il y a des enfants au camp cette semaine là, qui ont chanté des louanges pour une première fois dans leur vie sans savoir même l'auteur de celui qui on loue. ne le connaissent pas personnellement, mais ils n'oublieront pas ces paroles. C'est une semence. Puis notre prière pour ces enfants-là, c'est que cette louange, que d'être simplement des paroles et une semence, vont devenir une vie nouvelle en lui. C'est Dieu que Dieu veut qu'on fasse le bien, premièrement entre nous, les uns les autres, hein, dans notre famille locale de croyants. On est là pour se faire du bien entre nous, avec l'Église au large, ensuite avec tous ceux qui nous entourent. Aimez-vous les uns les autres. En premier, l'Église, mais pas exclusivement l'Église, mais pour tous ceux qui nous entourent. Dieu veut qu'on fasse du bien. Et Dieu veut qu'on devienne semblable à Christ. Donc, on n'a pas d'excuses. C'est juste cinq exemples. Il y en aurait d'autres, mais c'est juste des vérités qu'on lit dans la parole de Dieu. Puis, si Dieu veut notre sanctification, bien, c'est sa volonté pour notre vie. Donc, on cherche l'aide de Dieu d'être sanctifié. On met un accent dans notre vie, de voir que notre vie s'améliore pas à pas, peu à peu, qu'on a une certaine maturité qui s'installe avec le temps. Négligeons pas la parole de Dieu. Et puis, dans le temps qu'on attend des fois pour que l'image devienne un peu plus claire pour nous, quelle est la volonté de Dieu pour nous dans notre vie, mais parfois, on peut commencer avec les choses qui sont claires, qui sont écrites en noir et blanc dans les pages de notre Bible. Et puis, on s'attarde là-dessus, on se concentre là-dessus. Et un cœur voulant, Seigneur, va finalement apporter une image qui va être plus claire. Il va parler à nos cœurs, il va nous montrer, il va nous donner des désirs, il va nous équiper avec des dons pour faire justement le travail qu'il veut pour nous. Donc, nous passons parfois beaucoup de temps à chercher la volonté cachée de Dieu lorsqu'on néglige la volonté qui est déjà révélée. Une autre illustration. Quand on se promène en char le soir, surtout l'hiver, hein, parce que l'été, quand même, on voit assez bien pour assez longtemps, là. Mais l'effort d'une voiture, là, ça éclaire pas le chemin de A à Z, là, aussi. Si je pars d'ici puis j'ai à cœur de me rendre à Rouen, bien, c'est pas comme j'embarque sur le chemin puis je peux voir Rouen, là. Je vois la destination. Écoute, non, on voit juste devant nous, là. Mais on a la foi d'avancer dans la lumière qui nous est donnée et on sait que Dieu est fidèle et quand on arrive à la première destination, la première étape, bien, le prochain bout de chemin va être éclairé. Le prochain bout de chemin va être éclairé. Abraham, tout ce que le Seigneur a illuminé là, dans ses premiers moments, là, ça ne jetait pas de la lumière très loin. Sors de ton pays. Sors de ton pays. Mais avec le temps, Abraham a connu que Dieu lui avait réservé une terre promise dont lui, personnellement, n'occuperait pas lui-même. Ça irait à sa postérité. Et à partir de cette postérité, ce peuple que Dieu lui avait promis de fidèle à cause de la foi qu'Abraham avait, une multitude de nations seraient bénies par son obéissance. Écoute, imagine-toi si ça aurait été éclairé sur le coup, ça aurait été peut-être trop. Si Moïse, ça lui a pris 80 ans avant de rentrer en Égypte pour se faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte, il y a eu toute une école pendant les 80 ans, là. Il y a eu toute une formation pour arriver au point où il serait prêt à partir. Puis même quand il était prêt à partir, il se mettait devant le Seigneur et il dit, « Qui suis-je? Je bégaye, j'ai de la misère à parler, comment je vais parler à Pharaon, moi, là? » Et Dieu lui avait accordé à Aaron pour venir à son aide, pour lui aider. Même avec 80 ans de formation, il a eu besoin encore de l'aide et Dieu a pourvu pour ses besoins. Mais Dieu lui a apporté une lumière progressive dans le plan qu'il voulait révéler à ses serviteurs. Et il va faire la même chose pour nous. Donc, Dieu va révéler davantage sa volonté à ceux qui obéissent déjà. L'obéissance précède souvent une lumière supplémentaire. C'est biblique parce que Jésus dit même en Jean 7, 17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté à lui, il connaîtra. » Puis dans le verset, bien, le contexte était dans une situation très spécifique, il connaîtrait quelque chose. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. Mais c'est aussi un principe, je pense, qui est plus large que le contexte qui nous est donné dans l'Évangile de Jean. Je pense que le contexte est plus universel. Si on veut faire la volonté de Dieu, bien, Dieu va nous donner à connaître quelle est sa volonté. Mais il faut avoir déjà obéi. Il ne faut pas ignorer que Jésus, c'est le modèle parfait de quelqu'un qui faisait la volonté du Père parfaitement. Vous savez que Jésus même priait à son Père pour savoir la volonté du Père. On s'est dit, mais pourquoi Jésus avait besoin de parler à son Père? C'était Dieu. Mais comme notre frère nous a partagé, Dieu a mis de côté certains aspects de sa gloire, de qui il était, pour s'abaisser, pour devenir un homme. Donc lui aussi, il connaissait la fidélité du Père, il savait qu'il pouvait placer sa confiance dans le Père et lui demander, « Mais montre-moi le chemin que tu as pour moi. » Et le Père s'est révélé que sa volonté pour Jésus-Christ était de mourir sur une croix. Et même dans le jardin de Gethsémani, combien le Seigneur aurait voulu peut-être que Dieu, le Père, trouve un autre moyen. Il était tellement parfaitement humain. Il connaissait la volonté du Père et il répond, « ta volonté, pas la mienne. » Jésus dit ceci, « Ma nourriture est faite de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'était sa nourriture, c'est qu'est-ce qui le motivait, c'est qu'est-ce qui lui fortifiait, c'est sa raison d'être. C'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et puis le verset qu'on vient juste de citer en Luc 22, 42, « Non, pas ma volonté, mais la tienne. » Puis Jésus dit, « Je suis votre modèle, je suis votre ami. Tu es mon frère, tu es ma sœur. » Fais comme je fais, de la même façon que Paul, en vivant une vie consacrée au Seigneur, dit à ceux à qui il écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit à ses lecteurs, « Suivez mon exemple! » Mais la différence entre l'exemple de Paul et l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, c'est que l'exemple de Jésus-Christ est parfait et l'exemple de Paul, pas tout à fait parfait. Donc, des fois, on dirait qu'on se plante les pieds, on fait un grand stop parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Puis on sait qu'on va tomber, on sait qu'on ne sera pas parfait. Puis c'est comme on se disqualifie d'une vie consacrée pour le Seigneur parce qu'on sait que c'est un combat qui va se livrer jusqu'à la fin de nos jours. Mais vous le savez quand même, plus qu'on prend de maturité dans le Seigneur, et si je parle à nos jeunesses, plus que vous donnez vos vies à Christ, oui, au début, ça va être peut-être les combats les plus difficiles de toute une vie. Mais avec le temps, avec la maturité, avec du temps passé dans la prière et dans la parole de Dieu, en communion avec Dieu, on dirait que les choses sont un peu plus faciles. Les combats du passé ne sont pas les combats maintenant. Il semble que les combats maintenant sont moins importants que les combats peut-être qu'on a eus au début. C'est ça la sanctification. On est consacré, mis à part. La sanctification nous fait de progresser de mieux en mieux. Et puis finalement, on se sent équipé, prêt, et on dit « Oui, Seigneur, donne-moi à marcher dans la volonté de qu'est-ce que tu veux me confier, peu importe quel que soit. Il y a des obstacles. Il y a toujours un point, on pourrait dire, pour balancer les choses. Il y a tellement de positifs, puis on dit, bien, qui refuserait de faire la volonté de Dieu avec une belle image que c'est le plan parfait, c'est celui qui plaît à Dieu, c'est celui que Dieu va nous équiper, c'est une belle vie que Dieu va nous donner à vivre pour lui, on va glorifier Dieu. Hey, tu m'as vendu! Puis là, oups, ce ne sera pas facile. Oh, il va y avoir des obstacles. Ouh. Quels sont les obstacles à la volonté de Dieu? Bien, premièrement, c'est la peur. À un moment donné, dans ma jeunesse, tu sais, dans le manque de sagesse de parfois être une jeunesse, un jeunesse, ou ça se dit pas, ou masculin, je ne sais pas. Anyway, j'étais jeune à un moment donné. Et puis, il y avait un missionnaire qui est venu à l'église où j'étais à Timmins. Puis, il était en tournée, puis il a arrêté, puis il y avait des diapositives dans ce temps-là. C'était juste des petits Kodak là, qui jouaient des cliches sur l'écran, là. Et puis, c'était la jungle. Et c'était vraiment la mission, comme on comprenait les missions autrefois. Aujourd'hui, on comprend que le Québec, c'est une mission. Mais dans ce temps-là, on passait les seules missions, là, c'était juste chez les Noirs, dans des jungles, où les gens vivent dans des maisons de paille. Mais ça a juste à donner que ce missionnaire-là, c'était un gars qui était parmi ceux qui vivaient dans des maisons de paille et debout. Et qui mangeait des bibittes. Bien, vous savez combien que je suis difficile dans ma bouffe, hein, qu'est-ce que je mange. Vous savez, quand on a nos dîners agapés, là, les salades, je passe ça tout direct. Là. Imagine-toi manger des bibittes. Moi, je n'aurais jamais été missionnaire chez les Noirs en Afrique, sur le continent d'Afrique, où ils vivent dans des maisons de paille, parce que j'ai eu peur de manger des bibittes. C'est fou, hein, de penser comme ça. Mais tu vois, c'était la peur que ça serait possible, qu'il faudrait que je mange des choses que je n'aimerais pas manger, qui m'ont empêché de même être ouvert à la possibilité que Dieu m'avait réservé peut-être d'être missionnaire dans un pays étrange. Tu sais, j'étais jeune, mais je pouvais me voir peut-être dans la vie de cette personne-là, ce missionnaire-là qui nous amenait ce rapport de l'Évangile dans les coins les plus éloignés de la terre. Puis moi, je me dis, hey, je me suis disqualifié. Non, oui, je n'irai jamais là. Là, je rencontre Muriel, puis elle me dit à un moment donné que pour elle, dans sa jeunesse, quand elle était petite, elle a toujours voulu être missionnaire. Je ne dis pas en Afrique, j'espère. On rit de ça, mais c'est aussi très triste. Mais en même temps, je me dis, ben, j'étais très jeune, manque de sagesse, écoute, je ne connaissais pas grand-chose. Mais c'est comme je m'avais déjà à l'avance disqualifié. Des fois, même comme adulte, on disqualifie les ministères que Dieu voudrait peut-être nous impliquer dedans. Ou dans la vie ordinaire aussi, on n'a pas besoin d'être tous des missionnaires ou des prêcheurs ou des responsables dans l'église locale. On est évangéliste chez nous, on est évangéliste dans notre voisinage. Le Seigneur nous appelle à tout genre de ministère. Puis des fois, on se disqualifie pour dire, mais qui suis-je moi? Des fois, c'est notre propre volonté. On fait juste planter les pieds puis on dit, non, ça, c'est pas pour moi. Le désir du confort, ça c'est une autre. Hein? On veut être confortable. Puis il y a toujours la voix du monde. Puis parfois les voix les plus fortes sont même de ceux de notre propre famille, surtout dans notre propre famille où ils ne connaissent pas le Seigneur, si on n'est pas élevé dans une maison où les gens connaissent le Seigneur, combien de fois on se fait ridiculiser. Quand on commence à parler un peu, bien, un jour, moi, je voudrais. À un moment donné, j'avais dit à mes parents, je suis en train de considérer la possibilité peut-être d'école biblique. Ah, qu'est-ce que tu vas aller faire là? Je suis heureux de dire aujourd'hui, mes parents auraient été comme, oui, vas-y. Mais dans ces débuts-là, quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, t'es pas trop fou de ça, voir un fils qui se lancerait dans le ministère puis être pasteur ou être prédicateur ou n'importe quoi. Il voulait que je gagne un gros salaire, un beau salaire, puis je sois confortable, puis tout le reste. Mais c'est la voix du monde, mais ça vient de partout. Faut pas l'écouter, la voix du monde. Donc, on arrive à la dernière section ici. Comment discerner la volonté de Dieu, finalement? Parce que si on dit oui, bon, ben là, comment on va le discerner? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Puis c'est pas une image souvent qui est concrétisée dans un instant. Parfois, ça arrive pour certains. Dieu, dans sa sagesse et dans sa façon de faire les choses, pour certains, Dieu déclare et montre très clairement le trajet, la vocation, le pastorat, et toutes ces choses-là peuvent être claires tout de suite. Mais parfois, Dieu conduit par une autre méthode, puis c'est rare qu'il y ait une seule méthode. Donc, il ne faut pas regarder toujours à la même place pour les sources d'informations qu'on cherche une fois qu'on a répondu oui. Mais il faut répondre oui avant. Seigneur, fais qu'est-ce que tu veux avec moi. Je te cède ma volonté. Bien, c'est sûr qu'on a déjà mentionné que jamais Dieu va nous conduire contrairement à sa parole. Donc, on doit être des étudiants de la parole. On doit lire la parole. Souvent, il y en a beaucoup dans leurs témoignages, lorsqu'on leur parle de leur ministère et comment ils sont impliqués dans un certain ministère, qui vont nous dire, ben, c'est en lisant un passage que le Seigneur m'a parlé à mon cœur, que le Seigneur m'a montré. Tu sais, c'est le langage des évangéliques. Hein? Le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a parlé. Ce n'est pas une voix audible qu'il a utilisée. Il a parlé à nos cœurs. Et souvent, c'est par sa parole. Il faut lire la Bible. Le psaume 119 nous dit, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si on veut que nos phares illuminent le chemin qui est devant nous, ben, la parole dit, C'est moi la lumière. Je suis cette lampe sur ton sentier. 2 Timothée nous rappelle tous les bienfaits que premièrement, les Écritures sont inspirées, mais ils sont utiles. Utile, puis il nous donne des exemples pour corriger, pour instruire, etc. Mais finalement, à la fin du verset, c'est pour rendre l'homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. Josué 1,8, la méditation de la parole conduit à marcher selon la volonté de Dieu. Jean 17,17, ta parole est la vérité. Si c'est la vérité, bien, on va aller puiser cette vérité. Isaïe 8,20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. Je vous envoie tous ces versets-là par courriel dans la semaine. Vous pouvez réviser parce qu'on y va assez vite. La prière. C'est pourquoi qu'on a eu un thème, quelle est ton approche à la Bible? Parce qu'il faut la lire pour connaître la volonté de Dieu. Quelle est ton approche à la prière? Parce qu'on cherche la direction avec un cœur soumis. Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ne veux plus avancer, mais le prochain verset, c'est Philippiens 4, 6, 7. Présenter nos besoins à Dieu dans la prière, on est demandé de le faire, on est exhorté de présenter nos besoins à Dieu. Hop, c'est là, ça revient. Psaume 25, 4 et 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, conduis-moi dans ta vérité. Colossiens 1, 9. Paul, on voit ici qu'il est en train de prier afin que les croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Hey, c'est le fun. On n'est pas juste demandé à prier pour savoir la volonté de Dieu pour nous, personnellement, mais aussi on peut prier que Dieu révèle sa volonté dans la vie de nos frères et sœurs. Donc, on prie les uns les autres, puis on prie comme Église locale. Seigneur, qu'est-ce que est ta volonté pour l'Église locale de Notre-Dame-du-Nord, Comment pouvons-nous toucher le monde qui nous entoure? Jésus dit non, pas ma volonté, mais la tienne, on l'a vu ce verset-là tantôt. La sagesse est aussi un autre véhicule que le Seigneur utilise. Dieu nous appelle aussi à réfléchir, méditer. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Se confier en Dieu tout en reconnaissant qu'il nous donne sa direction, dans Proverbe 3, Éphésiens 5. Comprenez quelle est la volonté de Dieu, on est exhorté à la comprendre. Romains 12, 2, on l'a vu tantôt, renouvellement de l'intelligence. Et puis Proverbe 4, 7, à qui la sagesse? Hein? C'est comme quelque chose à ramasser, de l'acquérir. Il ne faut pas non plus négliger les conseils de croyants mûrs. C'est une chose que je donne souvent à mes étudiants qui demandent la question, là. Quel est mon don? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et je leur donne souvent, bien, va trouver un frère ou une sœur de confiance, parce que souvent les autres vont voir en toi le don que tu as et toi, tu ne le vois pas. Ils vont t'encourager dans le don que tu as, de l'exercer. Et puis l'Église locale a la responsabilité de donner des occasions à ceux qui vont développer leur don de le faire. Si on a un frère qui a le don d'enseignement, mais il faut lui donner des occasions pour aiguiser ce don-là, pour le faire. Puis peut-être sa première prêche, là, ça va être un petit peu trop long comme le mien. Peut-être ça va être un peu... Il va être bien nerveux, puis il semble qu'il va se sentir peut-être pas à la hauteur, etc. Mais avec la pratique, hein, on va aiguiser. Allons chercher des frères et des sœurs qui sont mûrs dans la foi. Et puis, il va y avoir une liste de versets, puis on n'a pas le temps d'arrêter sur chaque verset. Je vous envoie ça dans la semaine pour que vous puissiez les lire et de les contextualiser. Puis les circonstances autour de nous, il ne faut jamais, jamais négliger les circonstances dans lesquelles le Seigneur nous place. Si Muriel et moi, on est ici aujourd'hui, c'est parce que Peter Kerr est venu prêcher à Timmins, puis il est resté chez nous le soir, et il parlait du ministère Emmaüs, puis j'étais étudiant Emmaüs, et puis je voyais qu'il y avait un besoin dans le ministère Emmaüs, et puis tout à coup, ça commence à me jongler dans la tête, et puis plein de choses ont commencé à, comme une boule de neige qui roule en bas d'une montagne, puis là, je dis à Dieu, hey, « Ouais, ça a l'air que tu m'as qualifié pour ce ministère. » Parce que ce ministère avait un aspect technique, cours en ligne, etc. Bien, c'était mon métier. Je travaillais dans le domaine de l'éducation à distance. Il y avait un besoin pour un directeur régional francophone. Oups, je parle français. Je suis qualifié, etc. Il y en avait plein de choses. Pour moi, la seule chose, la peur qui m'a pris, saisi, c'est comme j'ai pas comme communiqué mon désir au début à mon épouse, parce que je me suis dit, hey, c'est cruel, on vient juste de s'installer, on est tellement bien dans notre retraite sur le bord d'un lac, on accueillait les gens chez nous, on est, tu sais, c'était une occasion de bénir les autres aussi, de notre église, de nos familles, de venir passer du temps au lac, sur le lac, et on avait plein de plaisir. Et puis, un jour, elle savait, elle, sans que j'y dise, s'il faut déménager, on déménage. Merci, Seigneur, de m'avoir donné une épouse prête à faire ta volonté, parce que là, moi aussi, je peux le faire, parce que j'avais peur de ma femme. Ben, j'avais peur de désappointer ou de tout bouleverser nos vies. Ce n'était pas les bébites qui m'ont arrêté ce fois-là. Et encore plusieurs versets qui nous arrivent, qui sont en appui avec l'idée que Dieu nous donne souvent des circonstances, nous place dans des circonstances sur lesquelles des décisions peuvent être faites. Je m'excuse, le temps est vraiment passé, donc on n'arrêtera pas sur les versets. Mais il y a des bénédictions. Hein? Il y avait des obstacles, mais maintenant il y a des bénédictions aussi à une vie soumise. Celui qui cherche la volonté de Dieu découvre quoi? Une paix profonde, une conscience qui est tranquille, une vie qui se semble utile finalement, une croissance spirituelle, une joie que le monde ne peut pas offrir. Donc, cette semaine, je vous envoie le courriel après-midi pour ne pas oublier. Si vous avez des versets que vous voulez méditer, regarder, revoir un peu, qu'est-ce qui vous a été proposé dans une quarantaine de minutes, mais que vous ayez une chance de vraiment demander devant Dieu quelle est mon approche envers ta volonté. Puis surtout nos jeunesses, là. Je n'ai pas les courriels de tous les jeunesses, mais j'ai les courriels de vos parents. Demandez à vos parents de vous envoyer le courriel avec les versets, puis prenez du temps. Puis si parmi nos jeunesses, il y en a qui veulent avoir le petit livre de Kevin DeYoung, là, ça me ferait plaisir de passer ma copie pour que vous puissiez la lire. C'est juste une vingtaine de pages. Parce que c'est pour vous que ça a été écrit, là, pour ceux de votre âge. Parce que vous êtes au début d'une chance, une occasion en or pour faire les plans de Dieu dès le début, dès le départ, puis pas attendre comme moi à l'âge de 55 ans pour marcher dans la volonté du Seigneur pour moi. C'est pas que qu'est-ce que je faisais avant, là, c'était de la débauche. Puis c'était... Non, il y avait des aspects où je marchais dans la volonté du Seigneur, mais c'était peut-être pas au point où ce que le Seigneur aurait voulu. Et donc, je me suis disqualifié. J'ai manqué des occasions en or pour bénir l'Éternel, peut-être pour bénir d'autres personnes autour de moi, parce que le Seigneur veut nous utiliser pour toucher le monde qui nous entoure. Si on ne leur dit pas, qui va leur dire? Si on ne se sent pas parmi ceux qui peuvent être envoyés de Dieu pour partager l'Évangile, bien, qui va le faire? Placez la question. Puis dis au Saint-Esprit, dans votre prière, illume les coins sombres de mon cœur. Quelles sont les choses qui m'empêchent de marcher dans ta volonté? De tout simplement dire oui, sans qualifier puis donner d'excuses. Tout simplement, Seigneur, pourquoi je ne suis pas capable de me dire oui? Puis le Saint-Esprit lui fera un plaisir de vous illuminer les coins du cœur pour vous montrer qui vous êtes. Pour vous aider à venir à un moment dans votre vie où ce que vous allez dire oui. Et puis là, l'aventure commence. Prions. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin des beautés, du privilège que nous avons à servir un grand Dieu, que ce soit dans une vie tout à fait ordinaire, dans nos familles, avec nos enfants, dans notre travail, Seigneur, ou que ce soit un ministère dédié justement à l'Évangile, à la mission, au service de l'Église locale, Seigneur, il y a toutes sortes de véhicules dans lesquels, Seigneur, tu pourrais nous placer pour œuvrer et bénir notre grand Dieu. Nous voulons, Seigneur, que l'Église ici à Notre-Dame-du-Nord soit vraiment une lumière dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis que les ministères connexes, comme le camp Jolibé, Seigneur, œuvre un travail important pour semer l'Évangile dans le cœur des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Donne à notre Église, Seigneur, de rayonner, d'avoir un témoignage qui est propre. Donc, Seigneur, on te demande par ton esprit de la protéger. Et va devant nous, Seigneur, et avec nous, pendant la semaine qui est devant nous. Dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.